France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur France Culture. Mon invité aujourd'hui est le père Frédéric Masson, Abuna Younan Frédéric Masson, prêtre à la paroisse syriaque catholique de Bethléem. Abuna, est-ce que vous êtes bien installé ?
Très bien, merci.
Est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs pourquoi je vous appelle Abuna, ce que ça signifie ?
Ah, vous m'appelez Abuna, puisque en arabe, Abuna, ça veut dire mon père.
Donc, c'est ça.
C'est le titre. Que nous avons, nous, les prêtres en Orient, et qui, d'ailleurs, non seulement les chrétiens nous appellent Abuna, mais aussi l'ensemble de la société, les musulmans aussi, lorsqu'ils nous rencontrent dans la rue, nous disent « Bonjour, sabah al-khair Abuna ». Bonjour Abuna.
Alors Abuna, au commencement était le verbe. Je vous propose donc d'ouvrir notre discussion par un petit jeu, un jeu d'étymologie. Pour Bethléem, j'ai trouvé deux origines possibles. La première, en hébreu, Bethléem, Bethléem, c'est la maison du pain, en référence à la zone céréalière, fertilité, etc. Et en langue sémitique ancienne, Beth Lahmu, la guerre, la maison de la guerre et de la protection. Donc au début, je me suis dit, bon, il y a quand même Anguille sous roche déjà. Et puis je me suis dit ensuite que c'était peut-être pas si différent. Les hommes ont toujours fait la guerre pour du pain.
Les hommes ont toujours fait la guerre pour du pain, mais c'est vrai que l'image qui me vient à l'esprit lorsque je pense au nom de Bethléem, c'est vraiment la maison du pain, car c'est une zone fertile, c'est une zone qui est agricole très très importante, qui est avec des très jolies terrasses qui sont très anciennes pour retenir l'eau, vous savez, avec toute une culture, une tradition de cultiver l'eau même pour pouvoir la récupérer à des fins différentes, soit pour légumes, les fruits, pour les arbres ou bien pour la consommation personnelle, etc. Donc c'est vraiment l'image qui me vient plus que celle de la guerre, même si nous vivons un drame en ce moment.
C'est on va rentrer dans le...
Celle d'un lieu fertile, d'un lieu béni par le Seigneur.
Et si on reste encore un peu dans l'épluchage sémantique, Bethléem, la ville du pain et de la naissance de Jésus, qui se présente lui-même dans l'évangile comme pain de vie, et en même temps, c'est le lieu où Hérode ordonne le massacre des innocents. Donc en effet, il y a peut-être un lien consubstantiel entre, je sais pas, nourriture et violence, matrice du tragique.
L'homme est peut-être amené dans sa vie à faire ce choix, justement, entre le choix de la vie, le choix de partager sa nourriture, le choix de recevoir sa nourriture de Dieu, et celui peut-être de se renfermer sur lui-même et de s'engager sur un chemin qui n'est pas celui du partage de la nourriture, mais un chemin plus individualiste, je dirais, et ça peut être à l'échelle d'une communauté, pas forcément à l'échelle d'une personne, pour ne plus sortir de ce partage. Et sortir du partage, c'est s'accaparer, c'est la source de la guerre. Donc le pain du Christ, je suis le pain, comme le dit Jésus, je suis le pain de la vie. C'est un appel vraiment à vivre ensemble et à ce partage du pain entre nous.
Alors on ne mange pas seulement du pain à Bethléem, mais on boit, vous avez mentionné l'eau déjà. Vous m'avez dit en préparant l'émission, Bethléem c'est une ville de puits et de sources.
C'est une ville de puits et de sources, c'est-à-dire que lorsque nous pensons à Bethléem, nous pensons tout de suite à l'église de la Nativité où le Christ est né, mais il y a d'autres lieux. Et dont deux lieux qui me sont spécialement chers, ce sont deux sources d'eau. Une qui est dans le petit village de Betjala, qui se situe au nord de Bethléem, qui s'appelle Bir'ona. Et la deuxième qui est dans l'autre village de Betsahour, qui est au sud, l'est, pardon, de Bethléem, qui lui est le puits de la Vierge Marie. Et deux miracles se sont produits à ces endroits-là. Lors de la fuite en Égypte, la Vierge avait soif, elle s'est arrêtée à ces lieux et elle a prié. Et une source est apparue. Et en fait, il faut dire que ce n'est pas une source d'eau comme nous l'entendons ici en Occident. C'est de l'eau vivante. C'est l'eau qui descend des montagnes et qui va s'écouler sous le sol, qui va se répandre ensuite dans les vallées. Et donc c'est une eau, c'est l'eau vive. Ce sont des sources d'eau vive. C'est une eau de passage. Et ces deux puits étaient très importants pour la vie des villageois. Ils venaient se puiser à cette eau-là et l'eau était redistribuée parmi toutes les familles.
Vous parlez au passé, c'est plus le cas aujourd'hui ?
Malheureusement non, puisque le système moderne maintenant a remplacé le fait d'aller prendre l'eau dans le puits, et puis il y a aussi des problèmes de pollution des sols. Et donc voilà, ces deux lieux sont encore considérés, bien sûr, comme des lieux saints.
Oui. Il y a les deux sources, et puis on songe aussi à David qui demande à boire.
Et David aussi qui demande à ses soldats de lui ramener l'eau des puits de Bethléem qui sont situés à l'entrée sur la colline de David, justement, un endroit qui porte son nom aujourd'hui. L'endroit où précisément est construite notre église, l'église syriaque catholique.
Oui. Alors, essayons un peu de nous figurer la géographie, le décor de Bethléem. On est en Cisjordanie occupée, ou en Palestine, à 10 km au sud de Jérusalem. Je crois que la ville est séparée par un mur, vous allez me le dire. Et il y a un grand marché arabe, des petites échoppes, des cafés, des mosquées, des églises. Abouna, vous pouvez nous raconter Bethléem telle qu'on la vit de l'intérieur?
Déjà, vivre à Bethléem, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est un lieu saint qui nous nourrit. C'est un lieu saint qui nous porte. C'est un lieu saint qui nous parle. C'est un lieu saint qui a marqué l'histoire, et cette histoire se continue aujourd'hui. C'est un lieu saint qui nous donne la vie. J'ai pu constater ça, et je le constate de toutes les personnes qui habitent à Bethléem. Ils sont touchés par la grâce d'une douceur. C'est comme si la douceur de l'enfant Jésus qui vient au monde, la douceur, la fragilité de l'enfant Jésus. Cette douceur, elle est présente sur les visages des habitants de Bethléem, dans leur cœur. Et donc, c'est vraiment vivre dans ce lieu qui, tout au fond de nous-mêmes, vient nous caresser, vient nous accompagner sur le chemin de la vie avec une grande douceur. En entrant à Bethléem, traditionnellement, il y a la fameuse Star Street, vous savez, la rue de l'étoile. C'est la rue que on a suivi en suivant l'étoile pour pouvoir aller justement à la mangeoire, qui n'est pas une mangeoire, mais qui est une grotte, disons la grotte de la nativité. Donc vous vous engagez sur cette rue de l'étoile, et là vous arrivez à la grotte de la nativité. Vous descendez quelques marches, il y a une basilique bien sûr, et vous descendez quelques marches, et vous avez cet endroit qui est très humble, tout petit, avec la pierre sur laquelle qui marque la naissance du Christ, avec un autre endroit qui désigne le lieu où il a été enveloppé dans les langes, et avec une autre petite grotte derrière qu'on ne peut pas visiter, qui est celle où la Vierge Marie a lavé le Christ après la naissance, le lieu du lavement.
Et la grotte du lait, qu'en est-il?
C'est l'histoire que la Vierge Marie aurait donné le sein au Christ, et qu'une goutte est tombée au sol et la grotte a complètement blanchi. Et depuis ce jour-là, c'est un lieu où les femmes qui désirent avoir des enfants et qui ont des difficultés pour avoir des enfants, elles s'y rendent, elles prient, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, pour être enceintes.
Vous avez déjà commencé à mentionner les hauts lieux, certains qu'on connaît tous en effet, la place de la Crèche, il y a aussi le tombeau de Rachel, la basilique de la Nativité, avec sa porte de l'humilité et la grotte dont vous nous parlez. Beth Sarour aussi, le site pastoral où les anges auraient annoncé aux bergers la naissance du Christ, beaucoup de couvents. C'est quoi les lieux qui importent pour vous, d'abord en tant que prêtre de Bethléem et aussi en tant qu'habitant de la région? Votre cartographie de Bethléem?
Forcément, je ne peux que placer la nativité au centre.
Oui.
C'est clair à ce niveau-là. Mais je pense que le marché de Bethléem, pour moi, est un lieu de vie où tous les habitants des villages aux alentours viennent vendre leurs produits. Et c'est un lieu très convivial. C'est un lieu très humain. C'est un lieu où la chaleur humaine est très forte, surtout dans les moments difficiles que nous traversons. Et il y a là vraiment la beauté de l'humanité qui s'exprime dans ce petit marché, qui paye pas de mine, mais au centre du village de Bethléem. Ensuite, je pourrais citer peut-être les différentes écoles de Bethléem, l'université et aussi des écoles du primaire au secondaire, qui sont, beaucoup d'entre elles, des écoles chrétiennes, avec une population fortement musulmane, étant donné que la présence chrétienne a beaucoup diminué ces derniers temps. Et je trouve ça très beau aussi de voir qu'il y a ce partage, cet échange, cette découverte de l'autre dans ces écoles. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les musulmans aussi m'appellent Abouna. Il y a une familiarité. Le vivre ensemble crée une familiarité, crée un respect. Et ces écoles-là sont des lieux de rencontre, de connaissance de l'autre, autant de la part de la communauté chrétienne envers la communauté musulmane que de la communauté musulmane envers la communauté chrétienne.
Mmh. Et c'est agréable d'entendre ce que vous dites, puisqu'on a de loin l'impression, au contraire, que c'est une cohabitation extrêmement tendue et même insoutenable. Et on se figure une ville cernée de checkpoints. Pour se rendre au Mont des Oliviers, par exemple, qui est seulement à 10 ou 12 kilomètres de la ville, il faut passer, par exemple, par le checkpoint 300. Là, vous nous montrez une autre réalité de cohabitation quotidienne et chaleureuse.
Alors, c'est la réalité de la vie quotidienne dans Bethléem. La difficulté, c'est lorsqu'on veut sortir de Bethléem.
Ah oui.
Dans Bethléem, il y a cette résilience du peuple palestinien qui passe par la douceur, qui passe par la convivialité, qui passe par des moments de vie intense, des moments peut-être de rire, de joie. C'est-à-dire que vivre dans une situation difficile, ça nous oblige à être plus humains entre nous pour pouvoir justement faire face aux moments difficiles. Les gens se ressourcent dans la convivialité, se ressourcent dans la communion, se ressourcent dans la chaleur humaine. C'était une chose très très importante depuis ces deux dernières années où les événements dramatiques ont plongé le pays entier dans un drame. Mmh. De constater que on a besoin l'un de l'autre pour la vie, en fait, pour ce partage dont je parlais tout à l'heure. C'est dans ce partage qu'on a la force de se tenir, qu'on a la force de rester soi-même, qu'on a la force de vivre à travers les épreuves que nous traversons.
Abouna, dans les lieux que vous avez mentionnés, vous n'avez pas encore mentionné votre propre paroisse, c'est Saint-Joseph de Bethléem, c'est ça ?
L'église Saint-Joseph de Bethléem, paroisse syriaque catholique.
Vous êtes combien dans la paroisse syriaque catholique de Bethléem ?
C'est une toute petite paroisse, seulement 25 familles. Là, je parle pour la communauté syriaque catholique. La communauté syriaque est beaucoup plus large. Alors là, j'inclus les syriaques orthodoxes, qui sont environ 500 familles. Ce sont des familles qui sont arrivées ici à la suite du génocide arménien du début du XXe siècle, 1915-1920. Et elles sont arrivées à pied, à dos de d'ânes, très très pauvres, fatiguées, meurtries. Elles ont été accueillies par les familles locales et elles se sont installées il y a une centaine d'années maintenant. Donc ce sont des réfugiés d'un autre drame, celui-ci, qui s'est joué dans les terres d'origine du monde syriaque. Hein, parce que le génocide arménien, c'est aussi toute une communauté syriaque.
Bien sûr, c'est les Assyro-Chaldéens aussi, voilà. 1915. Et d'ailleurs, à propos de ça, alors mettons un peu les pieds dans le plat sur cette question, vous avez plusieurs fois alerté sur le péril de disparition des chrétiens, a fortiori des syriaques, extrêmement minoritaires, dans une condition de précarité dans la région, et pris dans le maelstrom du conflit israélo-palestinien. Je vais lire un petit texte de vous, que vous avez publié. « Détresse des chrétiens de Terre Sainte pris dans le conflit israélo-palestinien. Si tous les regards sont tournés vers Gaza et Israël en cette période si dramatique, la vie dans les territoires occupés de Cisjordanie, et plus précisément à Bethléem, est comme en sursis. La plupart des magasins sont fermés et l'approvisionnement alimentaire reste incertain. Les checkpoints sont fermés, ce qui empêche des milliers de personnes de travailler. Les hôtels sont fermés, privant ainsi de nombreuses familles d'un revenu mensuel. » Les visages, eux, luttent pour ne pas se fermer, et les cœurs d'autant plus. Bon, ce texte, vous l'avez écrit au cœur du conflit. Là, la situation a un peu évolué, mais vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette situation ?
Le drame du Moyen-Orient, c'est vraiment le communautarisme. C'est une société fragmentée en communautés. Des communautés dont la tendance principale, c'est de dire ma communauté avant l'autre communauté. La vie des personnes de ma communauté est plus importante que la vie des personnes de l'autre communauté. Et ça, c'est quelque chose, en tant que chrétien, que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter de ne pas attribuer la valeur, les mêmes valeurs à la vie de tous les hommes et les femmes qui sont sur Terre. Nous sommes tous des enfants de Dieu. De fait, lorsqu'il y a un drame, comme celui qui se joue en ce moment en Terre Sainte, mais aussi dans d'autres parties du Moyen-Orient, alors nous, chrétiens, nous sommes ici face à un poison de la violence, un poison qui nous déshumanise. Et c'est là ce que je dis que ne pas fermer son cœur, ne pas fermer son visage, c'est-à-dire ne pas tomber justement dans ce communautarisme qui est le rejet de l'autre. Mais arriver vraiment à vivre ensemble avec nos différences. Alors je sais que ça peut paraître un idéal, une utopie, mais c'est ça notre foi. Ça peut paraître un scandale, ça peut paraître une stupidité même.
Non, simplement on songe avec chagrin ou le cœur serré justement à certaines images, par exemple de Bethléem, où on voit des chrétiens eux-mêmes qui ont pu se battre, notamment au Saint-Sépulcre, comme les Arméniens et les Grecs orthodoxes, des tensions, mais évidemment il faut que la foi transcende ces conflits communautaires.
Oui, c'est lorsque nous disons que le Christ est venu sauver le monde. Mmh. Et lorsqu'il est venu nous sauver du péché, peut-être le plus grand péché c'est celui de ne pas réussir à vivre ensemble. Donc si on prend vraiment notre foi au sérieux, nous avons là des possibilités, des chemins de vie là où ça semble impossible.
En période de Noël, c'est le meilleur moment. Alors ces deux dernières années, 2023-2024, vous avez connu, je crois, des Noëls assez ternes, avec des patrouilles de police sur la place de la Mangeoire, et aucun sapin de Noël, mais peut-être que là je dis une bêtise, vous allez me dire. Mais qu'en est-il de cette année 2025? Est-ce que les pèlerins pourront trouver un peu plus de lumière et de gaieté festive?
Inch'Allah, comme on dit, mais en tout cas, lorsque la mairie a décidé qu'il y allait avoir enfin cette année, après 2 ans d'absence, un sapin de Noël sur la place de la Mangeoire, alors tout le monde en parlait.
Ah oui.
Et les musulmans, comme je dis, qui sont mes voisins, me disent « il va y avoir un sapin de Noël cette année, il va y avoir un sapin de Noël cette année », puisque c'est un événement festif, et pas seulement festif, c'est un événement spirituel, religieux, symbolique, pour toute une communauté, c'est l'arbre de la vie. Donc oui, je pense qu'il va y avoir un sapin cette année.
La messe de Noël, la célébration de Noël, est-ce que c'est la même chez les Syriaques, chez les catholiques? Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre rite? Et est-ce que vous avez aussi le même calendrier?
En ce qui concerne le calendrier, nous avons un découpage de l'année liturgique en 7 périodes. Mmh. La première période est la période de Noël, qui commence début novembre. Donc nous sommes déjà bientôt à la fin de cette période maintenant, une période qui dure 7 semaines jusqu'à la naissance du Christ. Ensuite, nous avons la période du baptême du Christ, qui ensuite va exprimer le ministère de Jésus lorsqu'il a amené, il s'est promené et il a visité les villages. Et ensuite, nous avons la troisième période qui est la période du carême, une préparation de Pâques. Et la quatrième période qui est Pâques, c'est le sommet de l'année liturgique. Et ensuite, nous redescendons vers la Pentecôte. L'été, c'est la période des disciples. Et nous finissons par la période de la croix qui vient résumer un peu toute la vie chrétienne. Donc il y a un calendrier liturgique, il y a une réalité liturgique. Tout comme nous disons, il y a 4 saisons, il y a 365 jours. Il y a un calendrier que nous vivons de l'intérieur, que nous respirons avec ce calendrier-là. Et l'autre particularité aussi, par rapport à Noël cette fois-ci, c'est que nous avons ce n'est pas la lumière ou le feu de Pâques, nous avons la lumière et le feu de l'incarnation. Donc c'est au moment de la lecture de l'évangile de la naissance du Christ, nous faisons une petite pause et nous allumons un feu dans la cour de l'église. Et ensuite nous chantons en tournant autour de ce feu, car c'est la venue du Messie. C'est la lumière est venue dans le monde et qui a éclairé les ténèbres.
Mais vous parlez d'un chant, c'est peut-être le moment de vous entendre, surtout que vous faites en plus un doctorat, vous m'avez appris ça, sur la liturgie syriaque. Donc je vous propose... au micro de France Culture, d'entendre le père Frédéric Masson chanter une liturgie syriaque.
Al Beit Lechem, Diyuzo Everes, Kolodenu Seruso, Ushem et Havivoso.
Est-ce que vous pouvez nous traduire ce que vous venez de chanter?
Alors c'est un chant qui mentionne une personne qui dit « Je suis passé par Bethléem en Judée et j'ai entendu le son des hymnes bien-aimés et j'ai été pris par l'émerveillement. » Et la suite du chant mentionne que ces hymnes bien-aimés, ce sont des berceuses que la Vierge Marie chantait à l'enfant Jésus.
Abouna, je ne vous demande pas ici de faire votre homélie de Noël, Mais est-ce que vous auriez un mot à adresser à tous les auditeurs de France Culture, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs ?
Oui, je pense que nous venons dans un moment où le monde semble trembler sous nos pieds. Alors vraiment découvrir qu'il y a des chemins de vie qui dépassent tous nos impossibles. Cette naissance, elle est par elle-même impossible. Lors de l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, la Vierge dit « c'est impossible ». Et là, c'est un défi, notre foi, mais pas seulement notre foi, la vie qui coule en nous, en chacun d'entre nous, porte des chemins face à l'impossible, porte des chemins de vie, des chemins de vivre ensemble. Et je pense que c'est cet espoir, cette espérance-là, qui est très concrète, ce n'est pas une idée, c'est une relation les uns avec les autres. C'est le message peut-être que le Christ nous livre en cette période-là. Et c'est d'une très grande fragilité, comme un enfant nouveau-né qui vient au monde. Mais cet enfant nouveau-né grandira et va atteindre la résurrection. Donc c'est un chemin de vie qui peut-être peut paraître difficile, compliqué, étroit, fragile, mais qui mène vraiment à l'amour pour chacun que nous échangeons.
Abouna, merci beaucoup. Nous allons nous quitter merci en beaucoup. Entendant la suite de la liturgie que vous avez chantée. Je vous souhaite un joyeux Noël et j'espère que vous reviendrez à ce micro bientôt.
Je vous remercie. Bon Noël à tous.
C'était Chrétien d'Orient, une émission d'Ulysse Manès, réalisée par François Connac, coordonnée par Claire Poinsignon, générique original par David Federman, à la technique aujourd'hui Pierre Henry. Bon dimanche, joyeux Noël et à bientôt.
Shfa